Bon, on me fait signe que nous sommes en direct, donc que Dieu vous bénisse, bonne soirée, bienvenue à ce mercredi d'enseignement, que Dieu vous bénisse, j'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent, vous n'êtes pas trop stressé ou nerveux avec ce qui se passe chez nos voisins du sud. Au fait, toute l'année 2020, dans le fond, ça a été dans cette direction-là. Vraiment, une année d'incertitude et de qu'est-ce qui va arriver, de peur et de ci et de ça pour le monde. Mais nous qui sommes dans le Seigneur, nous savons que Dieu est en contrôle. Nous savons que le Seigneur est le roi, que notre confiance est placée en lui. Et peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe qui gouvernera les États-Unis, le Seigneur, lui, reste Seigneur. Il continue à régner pour l'éternité. Alors, bienvenue à vous tous. J'espère que vous êtes bien installés avec votre Bible, peut-être votre cahier de notes et votre stylo, parce qu'on va commencer. On va commencer par une prière. Et par la suite, nous allons faire la lecture. Aujourd'hui, nous poursuivons dans le chapitre 7 de l'Évangile de Marc et nous allons lire à partir du verset 14 au verset 23. Et dans le fond, cela constitue une suite à l'enseignement de la semaine précédente. Et on va faire juste un petit survol pour se mettre ou se remettre en contexte. Donc, le sujet pour... ce soir, cette session, c'est Jésus et le cœur. Jésus est le cœur, ou plutôt Jésus est notre cœur. Et nous allons prier maintenant pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te rendons grâce. Te remercions, Seigneur, parce que tu es bon. Ta fidélité, Seigneur, ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, et pour l'éternité, Seigneur, nous pouvons avoir pleinement confiance en toi. Nous pouvons, Seigneur, nous remettre entièrement en toi, remettre nos plans, nos projets, nos vies, nos destinées, Seigneur, notre futur, notre présent, même notre passé, Seigneur, tout, on peut le remettre à toi, Seigneur, et toi, tu vas en prendre soin, Seigneur. Merci pour cette parole que tu nous donnes ce soir. Qu'elle soit une lumière sur notre sentier, qu'elle soit, Seigneur, un miroir pour notre âme, qu'elle soit, Seigneur, une nourriture pour notre cœur. Merci pour toutes les personnes également qui sont, Seigneur, à la technique, Seigneur, qui contribuent de près ou de loin à ce que nous puissions avoir cette session, cette diffusion en direct. Que tu puisses bénir ces personnes et bénir chaque personne qui est déjà connectée, ceux qui le feront plus tard, Seigneur, que ta bénédiction, que ton onction et que l'efficacité de ta parole, Seigneur, soit à l'œuvre dans la vie, Seigneur, de mes bien-aimés, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Donc, Marc, au chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 14 au verset 23. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sorte du dedans et souille l'homme. Donc, faisons un bref survol de la semaine dernière. La semaine dernière, nous avions vu que après tous les événements qui se sont enchaînés un après l'autre, qui se sont même précipités, parce qu'on voyait des disciples et Jésus aller d'un endroit à l'autre, traverser une et plusieurs fois et être constamment dans une position, dans une situation où ils sont appelés à servir. Voilà que ils ont enfin la chance de pouvoir s'asseoir et manger. Et gloire à Dieu pour cela. Parce que Dieu pense aussi à notre bien. Et sauf qu'il y a eu des rumeurs, il y a eu des nouvelles, dans le fond, qui se sont propagées, qui sont arrivées jusqu'à Jérusalem. Et des scribes, des pharisiens ont eu la curiosité d'aller visiter Jésus pour voir qu'est-ce qu'il faisait, pour voir de quoi ça avait l'air, son service, ce mouvement-là, cette œuvre que Jésus était en train de faire. Et lorsqu'ils se sont présentés devant lui, ils ont immédiatement remarqué que les disciples ne respectaient pas le rituel traditionnel du lavement des mains avant la nourriture. Et donc, il pose la question à Jésus, mais il la pose en accusant également les disciples en disant que ces hommes, ben, ils ont les mains impures, donc ils sont impurs. Et parce qu'ils ne respectent pas la tradition des anciens. On avait vu que la tradition des anciens, dans le fond, c'est une extension humaine de la loi, où il y a plusieurs siècles avant Jésus-Christ, des scribes ont voulu aller plus loin dans leur zèle de la pureté et ont voulu qu'il y ait des ordonnances et des lois pour chaque situation de la vie, donc le lavement des mains. Et que donc ça forçait le juif à devoir respecter des centaines, voire des milliers de différents rituels et de différentes traditions pour être considéré pur, pour être considéré acceptable devant Dieu, pour être considéré aussi apte à servir et à adorer Dieu. Et dans le fond, la tradition, on l'a aussi appelée la loi orale parce qu'il n'y avait pas d'écrit. Ce ne fut que plusieurs siècles plus tard, où est-ce qu'il a commencé à avoir des écrits de cette tradition-là, mais on l'appelait la loi orale, donc c'était transmise dans le fond de génération en génération. Et donc, ces gens-là, en voyant, ils ont détecté immédiatement, et une chose qui est importante, c'est que les religieux, les gens dans les églises qui vivent la tradition, qui vivent la religion plus que la foi, vont être les premiers à remarquer les défauts des autres, vont être les premiers à remarquer ce qui ne tourne pas rond avec leur tradition, ce qui ne tourne pas rond avec leur façon de voir la parole et de voir la vie, la foi dans le fond. Et voilà qu'ils présentent dans le fond cette questionnement-là, qui est en fait une accusation à Jésus. Et là, Jésus leur dit, et la réplique, elle est plus forte encore que l'accusation, parce que Jésus tourne, dans le fond, l'attention sur eux, et en leur disant deux choses. En leur disant premièrement que ce sont des hypocrites. Et on a vu que hypocrite veut dire la même chose que acteur, que jouer dans un théâtre, que joue un personnage. Donc Jésus est en train de le dire, vous êtes des faux. Vous faites tout ça en apparence pour paraître bien, pensant que vous avez tout l'accomplissement de la loi dans le respect de vos traditions, dans vos rituels, mais dans le fond, vous n'êtes que des acteurs. Vous n'êtes que des comédiens, des hypocrites. Et il leur a également dit qu'ils sont plus attachés à leur tradition qu'à ce que la parole de Dieu enseigne. Et qu'est-ce qu'on trouve vraiment dans l'essence de la parole de Dieu. Eux autres, ils ne regardent pas ça. Ils ont abandonné cela. Ou même, ils anéantissent, ils annulent la parole de Dieu parce que pour eux, ce qui est important, c'est leur tradition. Ce qui est important, c'est leur religion, c'est les ordonnances, c'est les règles qui doivent être suivies, qui doivent être respectées. Et l'autre chose par la suite que Jésus rajoute, c'est le mot corban. Et on avait vu que au départ, corban voulait impliquer une offrande à Dieu, signifiait une offrande qui était déposée à l'autel à Dieu. Donc, quelque chose qui était offert à Dieu n'allait pas être repris pour servir à autre chose. Donc, il y avait une exclusivité à Dieu dans ce que nous déclarions qui était corban. Et que cette notion-là s'est corrompue dans le fond et a été appliquée de différentes façons au milieu de la société, qui a également amené à annuler la parole de Dieu et amené les gens directement à pécher. Donc les gens qui faisaient les choses en pensant qu'ils étaient purs, dans le fond, ils échouaient et ils tombaient dans l'autre extrême où est-ce qu'ils péchaient parce qu'ils étaient plus en obéissance avec la parole de Dieu. Et Jésus utilise la promesse d'honorer son père et sa mère. Le commandement plutôt avec promesse d'honorer son père et sa mère. Et il dit que Si quelqu'un déclare quelque chose qui est corban, donc qui est exclusif à Dieu, et qui déclare tous ses biens comme corban, comme exclusif à Dieu, et que là un proche, un parent, un père, une mère a besoin de d'aide, a besoin de d'argent, a besoin de secours, cet homme-là, même s'il a les biens, même s'il a la capacité de le faire, s'il a les ressources, il ne pourrait pas utiliser, ce serait défendu pour lui de venir en aide à ses parents, donc d'honorer son père et sa mère, et donc d'obéir à la parole de Dieu pour un précepte qui a été établi par les scribes et par les pharisiens qui s'est corrompu dans le fond et qui est devenu malsain. Et on a vu que c'est un effet néfaste. Ce concept-là est néfaste parce que même les gens disaient, bon, je corbanise, ok, expression qu'on a inventée ensemble. Le verbe, je corbanise quelqu'un, ça veut dire que je barre cette personne-là. Ça pouvait dire, donc, absolument aucun contact avec cette personne. Et même si cette personne est dans le besoin et que moi, je suis dans une position, dans la capacité de pouvoir aider cette personne-là, eh bien, étant donné que moi, je déclare corban, il n'y a rien de ce qui m'appartient qui va aller à l'aide, qui va servir à cette personne-là. Et vice-versa, je peux également dire corban à la même personne et dire je ne vais accepter à rien de cette personne-là. Aucun contact, aucun échange et aucun bien provenant de cette personne, si même moi je suis dans une situation de besoin parce que j'ai déclaré que cette personne est le corban, donc je vais me nier et je vais refuser toute aide qui pourra venir de cette personne-là. On l'avait vu aussi qu'au niveau des dettes, de l'argent, Lorsqu'quelqu'un avait une dette et on disait à cette personne-là, bon, la dette, elle est corban, ça pouvait dire deux choses. Ça pouvait dire, ben, la dette maintenant n'est plus envers moi, elle est envers Dieu. Donc, donne une offrande au temple et ce que tu pourras, et la dette est réglée. Mais il y avait un autre côté, un envers à la médaille, si on peut dire, ou à la monnaie. C'est que des gens aussi, quand ils employaient ce mot-là, ce terme corban dans le cas d'une dette ou d'un prêt, ça voulait dire, bien, écoute, tu me dois de l'argent, mais c'est comme si tu dois l'argent à Dieu, donc dépêche-toi de payer. Donc, c'était une forme de chantage, une forme de pression malsaine, qui non biblique, qui ne respectait pas la parole de Dieu, et donc qui amenait les gens juste à pécher. Et on avait vu que des corbans, Il peut en avoir dans notre vie. Il y a peut-être des gens, des groupes de personnes que consciemment ou non, à cause de la culture, à cause des traditions avec lesquelles nous avons grandi et que nous venons dans l'Église, nous venons dans le Seigneur, mais parfois on ne délaisse pas toutes les traditions et tous les concepts qui nous sont transmis par la culture, eh bien on corbanise, entre guillemets, des gens, des groupes de personnes, parce qu'ils ont une couleur différente, parce qu'ils s'expriment différemment, parce qu'ils mangent des choses différemment. Et là, il y a quelque chose que nous, on doit faire attention. On doit faire attention également avec tout ce qui est la religiosité qui nous amène juste à jouer un rôle dans l'Église, à venir faire la comédie devant Dieu. On peut connaître les chants, on peut connaître la Bible. On sait tous comment les choses fonctionnent dans l'Église. On connaît tout dans les moindres détails, donc on sait... quand il faut se lever, quand il faut ouvrir la Bible, quand il faut lever les mains, on sait tout ça. Mais on peut être en train de faire de la comédie aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que le cœur n'y est pas. Et parce que pour nous, c'est plus important la tradition. D'autres choses sont plus importantes de ce qui est vraiment dans la parole de Dieu. Et Paul nous avertit de faire attention aux philosophies, aux traditions des hommes, aux rudiments du monde, donc aux valeurs, aux courants qui sont dans le monde, parce qu'elles finissent par éloigner le croyant de Christ et de sa parole. Donc, Jésus nous donne un avertissement par rapport au service, parce que même dans la façon comment nous servons, nous pouvons être hypocrites, nous pouvons être acteurs. Même dans la façon comment nous servons, nous pouvons corbaniser des gens et annuler la parole, parce que pour nous, des concepts, des traditions, des rudiments ont plus d'importance, des philosophies ont plus d'importance dans notre vie, ont plus d'influence dans notre vie que ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Donc voilà un peu ce que Jésus parle par rapport à la tradition et à ce qui importe vraiment et ce qui qualifie vraiment un homme, une femme, à servir. On avait dit aussi que pour les Juifs, les scribes, les pharisiens, le fait de ne pas respecter le rituel de lavement des mains était équivalent à être en contact avec des excréments, s'être souillé avec des selles, avec des excréments. C'était vraiment une abomination. Abominable aux yeux des scribes. Les autres, ils disaient, c'est comme ça que Dieu te voit. Donc, tu n'es nullement apte à pouvoir servir, même que tu es maudit, condamné à vivre dans la pauvreté et à être tourmenté par les esprits impurs. Tout ça, ce sont les scribes qui l'ont amené. Tout ça, ce sont les pharisiens qui ont amené ces concepts-là. Et ça a été très, très spiritualisé. Donc, à faire attention aujourd'hui, dans ce qu'on vit, parce qu'il y a des concepts comme ça qui existent dans les églises. Il y a des chrétiens qui vivent selon des concepts qui reposent sur des oui-dire ou des traditions, des choses qui ont été transmises dont on ne sait même plus d'où, mais qu'il n'y a aucune base. Il n'y a aucune base biblique et surtout, il n'y a aucune identité avec et aucune association avec Jésus-Christ. Et donc là, une fois que Jésus parle et remet dans le fond les pharisiens et les scribes à leur place, c'est là où, ayant vu qu'il y avait la foule, ayant vu qu'il y avait les disciples, il leur dit au verset 14, « Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. » Et ce qui est important ici, ce qui a vraiment attiré mon attention dès le début de ma réflexion, de ma méditation sur ce passage, c'est que il appelle de nouveau la foule à lui. C'est-à-dire que dans le courant de l'échange qu'il y a eu entre les scribes et les pharisiens, l'attention n'était plus sur Jésus. L'attention de la foule et des gens qui étaient dans la maison, c'était tourné vers d'autres choses, peut-être vers la tradition, vers ce que les religieux étaient en train d'imposer. Mais il y avait eu comme une distraction. Mais plus qu'une distraction, il y avait eu une perte de focus. Et là, Jésus sent le besoin de rappeler les gens à lui, de leur rappeler l'importance de venir à lui, de s'approcher à lui. Et ça, de quelle façon nous on peut le voir aujourd'hui? Bien, c'est simple. Il y a beaucoup de traditions, beaucoup de courants de pensée, beaucoup de philosophies, beaucoup d'opinions, beaucoup d'experts. Il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament experts en ci, en ça, même dans des choses qui touchent la chrétienté ou la vie de l'Église ou la vie de la foi ou la vie de l'esprit. Ce sont des experts. Donc, ils vous sortent des fois des concepts, ils vous sortent des fois les cinq clés, les trois étapes, les six points, les quatre lois, les 17 saules, ils vous sortent plein de doctrines et plein d'enseignements basés sur une interprétation des fois très libre de la parole de Dieu, ou des fois c'est juste un amalgame de différentes choses qui ont été prises ici et là. Et Jésus est en train de dire, il y a tout ça, mais l'importance, c'est de venir vers moi. Peut avoir toutes sortes de coutumes et de mœurs et de traditions et de rudiments et de philosophies et d'opinions et d'experts, mais ce qui est essentiel, c'est de s'approcher de lui. C'est si on veut connaître la vérité, si on veut vivre la vérité, si on veut expérimenter cette vérité-là, ben on va juste la connaître à travers lui, à travers Jésus. Donc, il les appelle à nouveau vers lui ou à lui. Donc, la parole qui donne la vie n'est pas dans la loi ni les traditions, mais elle est en Jésus. Jésus se place non seulement contre les pharisiens ou contre les scribes, mais il se place également contre la tradition, contre les philosophies, contre tout ce qui, dans le fond, se lève pour écarter ou finir par éloigner le croyant de Christ. Pour dire vraiment, je suis le centre, c'est si vous voulez connaître la vie, si vous voulez connaître la vérité, ce n'est pas dans vos lois, ce n'est pas dans votre tradition, ce n'est pas dans vos croyances, ce n'est pas dans les rudiments du monde, ni dans les philosophies humaines qu'on va le trouver, c'est vraiment en Jésus. Aujourd'hui, le monde essaie de trouver le bonheur. Le monde essaie de trouver le sens à la vie, à l'univers, à l'existence, à travers toutes sortes de philosophies, de religions, de courants de pensée. Et puis les gens passent d'un courant à un autre, passent d'une philosophie, les gens voyagent et se promènent. Mais Jésus dit, venez à moi. Si vous voulez connaître la vie, si vous voulez connaître, expérimenter la vie, venez à moi. Et dans mes paroles, vous allez découvrir la vie. Dans mes paroles, vous allez connaître la vérité. Donc, déjà là, un point important que Jésus met, juste pour clarifier, hein, juste pour vraiment mettre au clair sa position face aux traditions et aux philosophies, aux opinions. Donc, il y a un point qu'on doit aussi tenir compte ici qui est très, 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 très important par rapport à la tradition, par rapport à nos coutumes. Parce que dans les moments difficiles, dans les moments incertains, notre nature humaine nous amène à nous retrancher dans ce que nous connaissons déjà. Notre nature humaine nous amène à nous retrancher dans ce qui est familier, ce qui est connu. Donc, des notions, des éléments dans la culture, des éléments dans la tradition qui nous a été transmise. Et nous amène également à nous réfugier dans ce que nous avons bâti comme ou établi comme mécanisme de défense. Derrière notre fausse assurance de carapace, derrière notre masque, dans des moments difficiles, bien des fois, on tend, nous, à se réfugier et à penser qu'on va pouvoir trouver un sens, une raison là-dedans, dans ce que nous connaissons, dans ce qui, pour nous, nous donne un certain sentiment, mais c'est un faux sentiment de sécurité et de confiance. Et le Seigneur ne veut pas qu'on fasse cela. Le Seigneur ne veut pas qu'on continue à perpétuer ce genre de comportement qui est une tradition dans la nature humaine. Ce genre de comportement qui est une coutume, qui est même une loi pour certains parce que c'est automatique. Dès que les choses vont mal, on retourne vers ce qu'on connaît et qu'on pense qui est sûr. Et on ne s'approche pas de Christ. Lorsque les choses vont mal, on ne s'approche pas du Seigneur. On ne va pas vers le Seigneur pour qu'il nous donne une parole. Plutôt, on retourne vers ce qui nous était familier, ce qui était traditionnel en nous. Et là, c'est important. Il y a un défi pour nous aujourd'hui avec ce qu'on vit. Et avec l'incertitude qui est devant nous, comment est-ce que nous allons réagir? Allons-nous vers Jésus ou allons-nous vers la tradition? Allons-nous vers la parole de Dieu ou allons-nous vers ce que nous avons été habitués à aller? Allons-nous nous réfugier dans le Seigneur? On dit, oh, le Seigneur, c'est mon abri, le Seigneur, c'est mon refuge, le Seigneur, c'est mon protecteur. Allons-nous vraiment vers le Seigneur pour chercher ce refuge ou préférons-nous vivre une vie fausse derrière un masque ou derrière une carapace qui, dans le fond, nous donne un faux sentiment de paix. Ce sont des choses qui sont à réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est très naturel, c'est très automatique chez nous et même dans le service, même en servant le Seigneur, nous pouvons retourner à ces choses. Nous pouvons tomber dans ces vieux pièges, si on peut dire, tomber dans ces vieilles habitudes et rater une occasion de connaître Christ davantage. Rater une occasion de laisser Dieu agir, de laisser Dieu vous parler. Dieu parle au milieu de la tempête. Dieu veut parler au milieu de votre situation, au milieu de votre insécurité. Dieu veut se manifester et se présenter comme votre protecteur, comme votre pourvoyeur, comme celui qui va vous protéger au milieu de la tempête. Mais si vous retournez, si moi je retourne dans mes traditions, si moi je retourne dans mes comportements, dans mes habitudes anciennes, où est-ce que je donne l'occasion au Seigneur de pouvoir se révéler davantage dans ma vie? Donc, important qu'on garde ça, important que le Seigneur nous éclaire là-dessus. Parce que ça passe inaperçu, mais nous le faisons tous. Ça passe inaperçu, mais nous avons tous, quelque part, dans tel type de situation, nous avons tous un réflexe qui n'est pas d'aller vers Jésus, mais d'aller vers la tradition. Et chacun a une tradition qui est différente d'une autre. Mais nous avons tous ce réflexe d'aller vers ce qui est traditionnel, qu'on pense qui nous donne une sécurité, qu'on pense qui nous donne un sens. Mais dans le fond, ça ne nous procure rien qu'un faux sentiment de sécurité. Et ça prive le Seigneur de pouvoir se révéler. Et ça prive le Seigneur de quelque chose d'encore plus important pour notre vie. Et c'est ce qu'on retrouve au verset 15, parce que Jésus leur dit, OK, venez à moi. Il les rappelle à nouveau à lui. Venez à moi, écoutez-moi, donc écoutez mes paroles, et vous allez comprendre. Et là, Jésus va au verset 15 avec cette déclaration. Il dit, il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Lorsqu'il parle ici d'entrée, il parle de la nourriture, parce que n'oublions pas le contexte, ils sont en train de manger. Et les pharisiens et les scribes arrivent et voient qu'il y a eu un non-respect du rituel du lavement des mains. Donc, Jésus dit, il n'y a rien, il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Ça, mes amis, c'est toute une déclaration. Et comme je vous disais, Jésus voit l'importance qui est accordée à la tradition, l'importance qui est accordée aux lois qui ont été établies par des hommes qui eux autres se sont inspirés peut-être de la Torah, mais c'est pas la Torah, c'est pas la parole de Dieu. Et cette appartenance à cette tradition-là était si importante pour la société juive que à peu près en l'an 167 avant Jésus-Christ, il y a eu un personnage appelé Antiochos IV qui a voulu helléniser, dans le fond, amener la culture grecque s'installer en Judée. Donc, il a voulu helléniser la Judée, Jérusalem, la Palestine et tout ça, et changer, dans le fond, la culture, changer l'identité des habitants, donc des Juifs. Et il est allé assez drastiquement dans les mesures qu'il a entreprises. Il a interdit la Torah, il a voulu l'abolir, il a cherché à l'abolir, il a voulu obliger les Juifs, imaginez-vous ça, à sacrifier et à manger des porcs. Et bien d'autres choses, il a voulu interdire également la circoncision. Et ça, par la suite, ça a amené à des révoltes, donc la révolte des Maccabées, qu'on certains connaissent, qui ont déjà lu les écrits par rapport à cette révolte qui a eu lieu. C'est à peu près à cette époque-là. Mais il y a eu des cas où des Juifs étaient mis devant une situation où on voulait les forcer à manger du porc. Et ces gens, par respect pour la tradition, par respect pour la loi, mais ils ont préféré mourir que de manger du porc. Donc, il y a eu beaucoup de cas tragiques, de cas tristes, dans le fond, dramatiques, où des Juifs sont morts. Parce que pour eux, le respect de la tradition, le respect de la loi, était plus important que tout le reste. Et là, Jésus arrive avec cette déclaration qui est comme dans le fond un coup de poing là, aux Juifs religieux. C'est une déclaration qui est révolutionnaire, là, qui ébranle toute la structure de société de l'époque. Parce qu'il est en train de dire, c'est pas ce que tu manges qui te souille. C'est pas le porc que tu manges qui te souille. C'est ce qui sort de ton cœur. Il change carrément toute la structure de pensée, toute la structure de la culture de l'époque, là. C'est pas une petite déclaration. Ça, c'est probablement une des plus fortes déclarations de Jésus de toute sa vie et de tout son ministère, là, ce qu'il est en train de faire. Bien souvent, on dit, car Dieu a tant aimé le monde. On va utiliser des versets ou des déclarations de Jésus qui nous touchent plus à nous, disons, qui concernent plus notre vie ou notre actualité. Mais ce que Jésus a déclaré à ce moment-là, c'était, on dit beaucoup de notre cher ami Trump qui fait des déclarations, puis que là, tout le monde s'emballe et dans les réseaux sociaux, ils réagissent contre ou en faveur, oh mon Dieu, les déclarations qu'il fait. Mais là, ce que Jésus a fait, là, comme déclaration, c'était une bombe. Parce qu'il était en train de dire et de contrecarrer complètement tout le concept de pureté et d'impureté qui gouvernait la société, qui gouvernait les gens. Jésus était en train de faire tomber des barrières. Jésus était en train de faire tomber des murs. Jésus était en train de faire tomber des corbans. Il était en train de faire tomber des chaînes. Il était en train de libérer son peuple des traditions, de libérer son peuple d'un respect de la loi qui n'était pas fait avec le cœur, qui n'avait jamais été fait avec le cœur. Et c'est pour ça que Jésus disait, « Ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Son cœur est loin de moi. » Donc, après avoir démontré, dans la semaine dernière, on a vu, après avoir démontré l'invalidité et l'absurdité même des lois et des traditions, notamment la tradition du lavement des mains, du lavage des mains, Jésus va avec cette déclaration qui est révolutionnaire. Complètement. C'est une nouvelle doctrine. C'est quelque chose qui vient changer toute la perspective. Et que même le religieux le plus fervent, là, ça vient, il ne peut pas rester insensible. Ça vient le chercher au plus profond, ça vient même l'ébranler. Mais Jésus sentait, Jésus voyait que c'était nécessaire d'être fait. Il voyait que c'était nécessaire. Pourquoi? Pour les gens qui étaient là, présents dans la maison, mais pour toi et moi qui aujourd'hui plongeons nos regards dans ce même passage. Pourquoi? Parce qu'il y a combien de chrétiens qui aujourd'hui n'avancent pas, ni dans leur vie, ni dans leur foi, ni dans leur relation avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont prisonniers de leur tradition. Ils se sentent protégés dans leur tradition, mais ils sont prisonniers de leur tradition. Et combien stagnent justement à cause que, par de la façon comme eux autres, ils voient les choses et vivent les choses, sans se demander si réellement ça repose sur la parole de Dieu, ils annulent la parole de Dieu dans leur propre vie. Ils abandonnent les préceptes, les vrais préceptes, les vrais fondements de la grâce et de la foi pour respecter autre chose, des traditions d'hommes. Et là, ils n'avancent plus. Ils ne grandissent plus. Et les frustrations viennent. Et les problèmes viennent. Mais plus que ça, vous savez, Jésus a dit des choses révolutionnaires. Jésus était un révolutionnaire pour son époque et encore plus pour aujourd'hui. Jésus est révolutionnaire. Mais une chose que moi j'ai compris, c'est que Dieu veut dire des choses révolutionnaires dans ma vie. Dieu veut dire des choses qui vont changer ta vie. Dieu a des révélations pour toi qui va changer, révolutionner ta vie. Mais c'est seulement lorsque nous abandonnons notre environnement traditionnel et lorsque nous prenons la décision de nous approcher du Seigneur comme source de vie, comme parole d'autorité et comme seule source de foi, c'est là où est-ce que Dieu va déclarer des choses puissantes et des choses révolutionnaires dans notre vie. Vous voyez le contraste? Quelqu'un qui est dans la tradition n'est pas dans la révolution et vice-versa. Et Jésus est un révolutionnaire. Est-ce que Jésus va vouloir faire dans notre vie, est-ce que Jésus va vouloir faire dans ta vie même, en confinement, c'est de révolutionner ta vie. Il a des déclarations qu'il veut faire. Il y a des paroles qu'il veut révéler à toi dans ta vie dont tu as besoin. Tu recherches du changement. Tu veux que Dieu te parle. Dieu va pas juste te parler. Dieu va transformer ta vie. Dieu va faire une révolution dans ta vie qui va venir ébranler les fondements les plus solides de tes traditions. Les fondements les plus solides de tes croyances, Dieu va venir les renverser parce que c'est un révolutionnaire. Donc, sois prêt. Sois prêt à entendre la voix de Dieu, à recevoir une parole qui ne va pas juste te donner des câlins, qui va te permettre juste de que tu puisses encore te prélasser dans ta façon de vivre. Non. Jésus, s'il te parle, c'est parce qu'il va faire une révolution dans ta vie. On s'entend là. Là où le monde s'en va, notre tradition, elle est d'aucune efficacité. Notre tradition religieuse ne sert à rien. Ce qui va permettre à l'Église de vaincre le monde, c'est sa foi dans la parole de Dieu. C'est sa foi dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est révolutionnaire. Le message de l'Évangile était révolutionnaire à cette époque. Il l'est encore plus aujourd'hui. Donc, il faut arrêter de penser que c'est une belle petite vie religieuse avec ma petite routine. Non, mon ami. Il faut arrêter ça. Dieu veut révolutionner l'Église. Dieu veut te révolutionner. Changer ta vie complètement. C'est ce que toi et moi, on a besoin. Aujourd'hui, en 2020. Alors, Si nous nous approchons du Seigneur, il faut s'attendre à cela. Si tu as un cœur, si tu as soif de Dieu, si tu veux plus de Dieu dans les temps qu'on vit maintenant, et si tu prends la décision de t'approcher de lui, sois sûr d'une chose, c'est que ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu va faire une révolution. Dieu va faire une révolution. Alléluia. Je suis sûr qu'il y a des gens qui disent « Amen ». Qui nous écoutent et qui disent Amen. Versets 18 à 20, on va passer quelques versets. Versets 18 à 20, Jésus leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Et il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Et c'est là où on parlait justement de la nourriture. Et là, Jésus parle de quelque chose de notre organisme qui est tout à fait connu. C'est que notre Dieu, la façon comment il nous a créés, ben, il a créé les organes qui nous permettent de purifier le corps. Donc, de purifier les aliments, de purifier le corps. Donc, Jésus, il dit, pour ce qui est de la nourriture, ben, il n'y a pas de problème. Parce que Dieu nous a déjà constitués d'une façon à ce qu'à l'intérieur de nous, les aliments sont purifiés. Le sang est purifié. Et tout ce qui est mauvais est jeté. Et voilà comment ça fonctionne pour les aliments. ça me vient de faire penser à un livre que mes enfants ont à la maison, que c'est Le Grand Voyage de Monsieur C. Monsieur C pour... Mm-hmm. Et là, ça montre tout. Et on voit tout l'organisme et c'est bien expliqué comment le corps fonctionne lorsque on mange quelque chose. Et donc, Jésus le dit tout simplement en des paroles normales. Le corps fait déjà ce travail de purifier les aliments. Mais c'est pas la pureté dont Dieu parle. C'est pas la pureté pour servir Dieu. C'est pas la pureté pour adorer Dieu. Jésus remet les choses à leur place. Mais en mettant les choses à leur place, Jésus amène une restauration des choses. Et Jésus amène une libération. Ce que le Seigneur était en train de faire à ce moment-là, là, il faisait peut-être pas de miracle, OK? Il était peut-être pas en train de multiplier des pains. Il était peut-être pas en train de guérir des malades ou des infirmes ou de ressusciter des morts ou de chasser des démons. Mais Jésus était en train de restaurer des choses profondes. Et Jésus était en train de libérer les âmes de l'emprise des traditions. Tout un travail que Jésus était en train de faire à ce moment-là même, parce qu'il était en train de remettre les choses à leur place selon leur importance et selon leur priorité. Et dans cette restauration-là, Jésus déclare qu'il est plus important la condition du cœur et des actions qui en découlent que tout le reste. Il dit également que, à travers ceci, il dit que dans le fond, les motivations intérieures sont plus importantes que la performance extérieure. On peut venir à l'église et performer, là, mais performer. Et Jésus voit la motivation intérieure et il va dire, j'ai vu une belle pièce de théâtre ce matin. Bon, en fait, pas belle, parce que je pense pas que Jésus serait content, mais bon, j'ai vu une pièce de théâtre, j'ai vu une comédie. Je me suis pointé à l'église sur Saint-Laurent pour voir les adorateurs en esprit, en vérité, et c'était plutôt des acteurs que j'ai vus là. J'ai vu une pièce de théâtre. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Mais Jésus est en train de replacer le cœur et les motivations du cœur là où ils sont, où ils devraient être aux yeux de Dieu et où ils devraient être aussi à nos yeux, à nous. Et Paul reprend des passages, Paul reprend cette notion-là parce que les disciples par la suite ont eu également ce même défi-là de devoir revenir sur ce point-là et de devoir également libérer d'autres gens dans d'autres contrées, dans d'autres villes qui étaient également pris par toutes sortes de croyances. Et Paul dit aux Romains, chapitre 14, verset 17, il leur dit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Il dit également dans 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 8, « Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. » Et j'espère qu'avec ce qu'on voit aujourd'hui, ça va en libérer certains. Vous allez expérimenter une délivrance par rapport à certaines traditions, cultures. Voyez ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il dit « Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. » Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus que des calories. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Donc, la parole de Dieu met au clair que tout ce qui concerne les aliments n'a rien à voir avec ta condition devant Dieu. N'a rien à voir avec si tu es qualifié et apte à servir et à adorer Dieu ou non. C'est clair. Et on pourrait donner encore plus de versets, on va s'arrêter là. Mais qu'est-ce qu'on peut sortir de ces versets-là, de ce que Jésus est en train de faire à ce moment-là? Premièrement, c'est que vivre le royaume de Dieu commence à l'intérieur. La vie du royaume de Dieu, c'est une vie qui commence à l'intérieur et qu'elle est animée par le Saint-Esprit. Elle est animée par l'Esprit de Dieu. Et c'est elle qui souffle, c'est l'Esprit de Dieu qui souffle cette vie en nous, qui nous rend vivants, qui nous rend spirituels, qui rend ce volet spirituel en nous vivant et dynamique par sa puissance, par sa présence, par sa manifestation. Donc le royaume de Dieu commence à l'intérieur. L'autre chose, c'est que la foi dans la parole, lorsqu'on décide de croire la parole et de s'y attacher plus que les traditions, eh bien, ça nous permet de servir complètement libre, avec une conscience qui est pure, qui a été purifiée, avec une conscience qui a été délivrée de tous les concepts humains, de toutes les philosophies humaines, de tous les rudiments humains qui viendraient nous bloquer, qui viendraient mettre des divisions, qui mettraient de la discrimination, qui nous amèneraient à ne pas représenter Christ totalement et complètement. D'où l'importance de s'approcher du Seigneur et de s'attacher à sa parole. Et la troisième, eh bien, en mettant le cœur comme point principal, eh bien, il est en train de dire qu'il faut veiller sur la condition de notre cœur et que ça devient une priorité. C'est primordial de le faire. Primordial de le faire. Donc, voilà Jésus qui rétablit les choses. Voilà Jésus qui restaure, qui libère, qui est en train de faire un grand travail de transformation dans la conscience et dans le cœur des gens. Et certainement, ce soir, il est en train de faire également la même chose dans nos vies. Nous allons maintenant au verset 21. Et il dit, car c'est du dedans. Et là, il y va vraiment dans le détail. Il est parti de la tradition, de qu'est-ce que les gens croyaient, et puis là, il arrive au cœur. Et notre cher pasteur Fontalvo avait l'habitude de dire que le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Et c'est effectivement vrai, on va le voir dans les prochaines minutes. Verset 21, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses sortent du dedans et souillent l'homme. » Et là, imaginez-vous un peu. Ces religieux, ces scribes et pharisiens qui se croient conformes avec la loi, qui se croient purs et ayant accompli toute la loi aux yeux de Dieu, donc purs, voilà que Jésus leur dit, ben, vous regardez toutes ces choses-là, mais votre cœur peut être rempli de toutes ces choses mauvaises. Et elle est assez lourde comme liste. Moi, je l'appelle la liste noire du cœur. Elle est assez lourde, là, de quoi faire réfléchir n'importe qui. Même un non-croyant, cette liste pourrait lui faire réfléchir sur sa propre condition et comment lui il voit les choses dans sa vie, là. Parce que Jésus est en train de dire, voilà ce qui vraiment te rend impur. Ce n'est pas un respect de tradition, ce n'est pas si tu as mangé tel ou tel aliment. Ce qui te rend impur devant Dieu, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Mais c'est ce que tu refuses de regarder. C'est ce que tu refuses d'admettre dans ta propre vie. Parce que toi, tu préfères mieux montrer cette apparence et faire en croire et te tromper toi-même en faisant croire que tout va bien. Mais lorsque Jésus voit ton cœur, il voit cette liste noire qui est dans ton cœur et il sait clairement que tu es souillé à l'os. Et donc, une belle liste que Jésus établit et qui, dans le fond, ce sont ces choses-là qui déterminent notre condition de cœur devant Dieu. Et remarquez la première chose dans la liste, la première énumération au verset 21, ce sont les mauvaises pensées. Mauvaises pensées, les pensées sont à l'origine de toute action. Les pensées, que ce soit une idée, une image, un concept, une opinion, une valeur, une pensée, tout commence avec une pensée. Les plus grandes inventions, les plus grandes idées, les plus grandes découvertes ont commencé avec une pensée. Quelqu'un a pensé à fabriquer ce vêtement. Quelqu'un a pensé à des tablettes, cette bouteille. Quelqu'un a pensé. Et cette pensée-là s'est concrétisée. Et donc, les pensées mènent à des actions, mènent à des comportements, mènent à un raisonnement. Que ces pensées-là soient bonnes ou mauvaises, elles vont provoquer le même effet, c'est-à-dire qu'il va avoir, un raisonnement, il va avoir une conviction, il va avoir un comportement, il va avoir des actions, et un style de vie. Et Paul va plus loin en ce qu'il dit, il va avoir des forteresses même dans la pensée. Tout commence avec une petite idée, une petite pensée, des fois très, très, très inoffensive, mais qu'avec le temps, ça fait des ravages. Et là, la Bible parle, et Paul également en est un qui mentionne, cela parle de l'importance d'être renouvelé dans la pensée, d'être transformé dans notre intelligence, d'être transformé dans nos pensées. Et dans Romains chapitre 12, verset 2, nous lisons « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et puis dans Philippiens chapitre 4, verset 8, nous lisons « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Donc on a la liste des impuretés, la liste de ce qui ne devrait pas être présent en nous. Et dans Philippiens, on a la liste de ce qui devrait être présent et de ce qui devrait habiter et faire l'objet de nos pensées. Donc retenez ces deux références-là. Parce que ça va nous parler beaucoup. Est-ce que ma vie reflète plus la liste dans Marc ou elle reflète plus la liste dans Philippiens? Je pense que c'est une bonne question à se poser ce soir, chacun d'entre nous. Donc, l'importance d'avoir une pensée pure. Et comment cette pensée pure peut arriver à être? Eh bien, c'est par le renouvellement, par une transformation de notre être intérieur. Et ça, c'est biblique et c'est important pour nous de ne pas vivre conformément à comment le monde vit, à comment la société vit. Nous devons vivre et penser comme le royaume de Dieu, comme Jésus-Christ a vécu, vit et pense. Et donc, voilà la liste qu'on retrouve dans Marc. Donc, premier élément, ce sont les mauvaises pensées. Par la suite, Jésus énumère une série de choses et on va passer à travers quelques-unes. Il y en a que c'est assez clair, c'est évident. Ça dit ce que ça doit dire. Comme dit mon frère pasteur André, un chat c'est un chat, donc c'est clair ce qui est dit là. Donc, il parle des adultères. Pour ceux qui poussent un peu plus l'étude, vous pouvez avoir également le terme grec à côté. Donc, pour adultère, c'est moikeiai, moikeia, quelque chose comme ça, moikeia. L'impudicité, c'est quoi? C'est pas un terme qu'on utilise, c'est pas quelque chose dans le vocabulaire courant. Les impudicités, le terme grec, c'est porneia. Et là, par porneia, on comprend pornographie, pour tout ce qui est du matériel pornographique. Donc, fait référence à toute relation sexuelle illicite. Mais ça parle également de la souillure de l'idolâtrie. On retrouve les meurtres, Le terme grec, c'est phonos. Les vols, en grec, c'est klope. Et de là, on a le mot kleptomane, entre autres. Cupidité, ou également pléonexia, qui veut dire le désir d'avoir plus. L'avarice. Les méchancetés, en grec, c'est poneria ou poneria, qui parle de dépravation, de malice, de désirs qui sont méchants. Pour la fraude, nous avons le terme grec dolos, qui est également employé pour la ruse, les paroles mensongères, la tromperie. Un qui est intéressant, le dérèglement. Lorsque j'ai vu ça, je dis, bon, OK, dérèglement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je suis allé dans le grec. Et pour dérèglement, c'est aselgeia, qui est la luxure sans bride. Les excès, le libertinage, l'insolence, donc tout ce qui sort d'un contexte d'ordre, le désordre dans le fond, la débauche, le désordre total. Le regard envieux, poneros, qui, ben, on sait c'est quoi, c'est l'envie, c'est la jalousie, c'est convoiter ce que quelqu'un d'autre a ou de ce que quelqu'un d'autre aimait, dans les différentes définitions, dans les sens que le mot poneros a, c'est quelque chose qui cause de la peine et de la difficulté pour la foi. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Puis c'est vrai qu'on ne le voit pas de cette façon, bien des fois, mais le regard envieux, l'envie, la jalousie, va poser des problèmes et va donner des difficultés à la foi, à une vie de foi qui est pure, qui est transparente, qui est authentique. Calomnie, pour calomnie, on a le terme blasphémia. Blasphémia qu'on utilise bien souvent, c'est utilisé bon, quand tu blasphèmes, c'est-à-dire que tu as des propos injurieux contre Dieu, tu insultes Dieu, mais dans l'origine, c'est pas juste d'insulter la majesté de Dieu, mais c'est aussi d'avoir des propos et un discours injurieux envers ton prochain. Donc, à garder en tête qu'on peut blasphémer dans la calomnie contre quelqu'un, et ça également, Jésus en prend note. L'orgueil. Pour l'orgueil, nous avons uperephania, qui également est décrit par l'arrogance. Traiter les autres avec insolence et avec mépris. Et finalement, la folie, pour le terme grec aproshune, qui veut également dire sottise, insouciance et témérité. Une grosse liste. Wow! Ça vient dans le fond. Tu sais, marquez une chose. C'est parti d'une discussion sur le lavement des mains. Où est-ce que les gens voulaient en faire un gros cas puis un gros scandale sur le lavement des mains. Et puis ça finit avec une liste assez lourde de choses qui sont présentes dans ton cœur et dans le mien. Quand on dit que Jésus a remis les choses à leur place, c'est vrai. Et on ne peut pas prendre cela à la légère. Et on ne peut pas se dire, ah, moi, dans le fond, je ne suis pas vraiment touché par ce que Jésus a énuméré dans ces listes-là. Il faut faire attention. Parce que si Jésus en a parlé, et il en a parlé aux disciples, il n'a pas fait cette déclaration-là aux scribes, aux pharisiens, ni à la foule, parce que la foule avait déjà quitté, ils étaient éloignés. Et les disciples se sont approchés de Jésus pour l'interroger par rapport à ce qu'il avait dit, la déclaration révolutionnaire qu'il avait faite. Et donc là, Jésus s'adresse à des croyants. Il s'adresse à ses disciples. Il s'adresse à l'Église. Il leur dit, voilà ce qu'il y a dans le cœur. Voilà ce qu'il faut faire attention, bien-aimés. Voilà ce qui va nous mettre des problèmes et nous causer des troubles en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu et en tant que serviteur. Toute personne qui veut suivre Christ, toute personne qui veut vivre une vie de foi, doit veiller sur son cœur. Faire attention que ce qu'il y a dans cette liste-là ne soit pas présent dans son cœur. Parce que ce qu'il y a là va le souiller et va le rendre impur aux yeux de Dieu. Et ça, c'est beaucoup plus grave que l'aliment qu'on mange ou que si on a respecté ou non le rituel. Ça veut dire que c'est plus important ça que de connaître tous les chants de l'Église. C'est plus important tout ça que serrer la main de tout le monde à l'Église. Bon, je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer à serrer la main. OK, je n'ai peut-être pas pris le meilleur exemple, mais vous comprenez. Jésus met les choses à leur place. Et il libère les gens de la tradition, mais pour les amener dans la vérité. Et la vérité, elle n'est pas tout le temps joyeuse ou agréable. Elle peut être dure. Elle peut faire mal. On ne va pas dire « Amen », on va dire « Ouch ». Mais elle est nécessaire pour notre bien. Parce que Dieu veut notre bien. Parce que Dieu, et je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, mais Dieu veut notre succès. Dieu veut ton succès. Tout ce que Dieu a établi dans sa parole de Dieu, dans sa parole, c'est pour que tu aies du succès dans la vie. C'est pour que tu aies du succès dans ta marche avec lui. C'est pour que tu aies du succès dans ton service, dans la raison pour laquelle Dieu t'a créé et dans la raison pour laquelle Dieu t'a sauvé et t'a appelé. Et donc, ce qu'il parle ici est essentiel. C'est à la base. Parce que ce qui est caché, ce qui est présent comme trésor dans ta vie, va se refléter et va soit te souiller ou non. Et cette liste devrait nous inciter à nous approcher de Dieu humblement, avec beaucoup d'humilité, et de faire la prière que David a fait dans le fond, qu'on lit dans le psaume 51, qui dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Le psaume 51, verset 12 à 14. Une belle prière, que même aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, on a besoin de faire. Seigneur, tu sais ce qu'il y a dans mon cœur. Tu sais mieux que moi ce qu'il y a dans mon cœur. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, un cœur comme le tien. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé, que mes pensées soient transformées. De façon à ce que et mon cœur et mes pensées soient en ligne avec toi et que je sois libre de pouvoir servir et que le service porte fruit, que ma foi porte fruit pour la gloire de ton nom. Donc en résumé, il y a beaucoup de pensées, beaucoup d'opinions, beaucoup d'experts dans toutes les matières possibles et imaginables, mais la vérité sera connue et n'est connue qu'en s'approchant de Jésus. Il y a un défi devant nous. Et c'est le défi de sortir de nos tranchées, sortir de notre caverne traditionnelle pour venir à la lumière de Christ, même en tant que chrétien, même en tant qu'enfant de Dieu, même en tant que serviteur et qu'ouvrier. Ceci est un défi réel. De sortir de notre tradition pour s'approcher du Seigneur Et une des choses que Jésus a fait et Jésus va faire aussi, c'est que dans nos vies, c'est que Jésus démontre. Jésus est bon parce que il fait pas les choses à l'insu de notre intelligence ou de notre conscience. Dieu respecte et nous respecte énormément. Et de la même façon qu'il a démontré aux Juifs l'invalidité et l'absurdité des traditions, Jésus va te démontrer et va te convaincre également, et va me convaincre de l'invalidité et l'absurdité de bien des pensées que j'ai entretenues et que j'entretiens, et que toi aussi tu entretiens depuis des années. Il va te le démontrer par sa parole, par la conviction que donne son esprit. Et il va également te parler de révolution. Il va révolutionner ta vie. Jésus est un révolutionnaire. Jésus remet les choses à leur place, donc l'importance du cœur et des actions qui en découlent. Et on répète, vive le royaume de Dieu commence à l'intérieur. C'est animé par l'Esprit de Dieu. La foi dans la parole nous permet de servir librement et libre de toutes les traditions humaines, de toutes les pensées, les raisonnements. Et l'importance aujourd'hui de veiller sur notre cœur. Et tout ce que Jésus a énuméré ici devrait nous amener régulièrement devant son trône de grâce, avec humilité, lui demander, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Peut-être que tu es conscient que certaines de ces choses qui sont énumérées font partie de la réalité de ta vie. Ta vie secrète, ta vie que personne ne connaît, mais que le Seigneur connaît. Et le Seigneur peut t'aider, le Seigneur peut m'aider à être libre de ces choses et avoir un cœur pur et servir Dieu, adorer Dieu avec un cœur pur. Quel beau trésor, quelle belle offrande nous pouvons offrir au Seigneur avec nos mains levées vers lui, des mains innocentes, avec une bouche qui ne ment pas, une bouche qui ne trompe pas, mais avec un cœur qui est pur. Quelle belle adoration, quelle belle louange, quel bel honneur et hommage nous pouvons faire au Seigneur. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Seigneur Jésus, en ce temps de difficultés, Seigneur, et d'inconnu et d'incertitude, Seigneur, tu nous dis que l'importance c'est de s'approcher de toi. La vie est en toi. La vraie vie, la vérité est en toi, Seigneur. Et tu as remis les choses à leur place, là, dans cette maison, devant la foule, devant les pharisiens, les scribes, devant tes disciples. Et tu veux également mettre, Seigneur, les pendules à l'heure dans notre vie, réorganiser, Seigneur, les choses qui sont venues, qui se sont organisés, ou plutôt désorganisés dans notre vie, et qui, Seigneur, ont plus un effet néfaste sur notre foi et sur notre relation avec toi et sur le service auquel tu t'attends, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Et comme le psalmiste a dit, il a prié humblement, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Oui, Seigneur, crée en nous un cœur pur. Que nous puissions te servir, nous puissions te rendre hommage, nous puissions honorer, Seigneur, ton nom, nous puissions honorer, Seigneur, ta présence, ta majesté, ta sainteté, en te servant, en t'adorant, avec un cœur pur, avec des mains innocentes, avec une bouche, Seigneur, qui n'est pas dans le mensonge ni dans la tromperie. Aide-nous, Seigneur, nous avons des défis devant nous face à cela. Et tu connais, Seigneur, la condition du cœur de chacune des personnes qui ont écouté ou qui vont écouter, Seigneur, cet enseignement. Et je te demande de te révéler, de parler à leur vie, de transformer leur vie, de provoquer, Seigneur, une révolution dans leur vie. Pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Alors que Dieu vous fortifie, que le Seigneur continue à vous parler de façon personnelle à ce qu'il y a dans votre cœur, certainement que Dieu veut vous libérer, vous restaurer et faire une révolution dans votre vie. Approchez-vous du Seigneur plus que jamais et continuons allons de l'avant. Le Seigneur a de grandes choses pour chacun d'entre nous, pour son Église. Donc n'oubliez pas demain, 8h30, la bénédiction matinale avec le pasteur Florent. Et que le Seigneur vous bénisse, vous garde dans cette restante soirée. Et je vous dis shalom. Je ne vous l'ai pas dit la semaine dernière et on m'a presque chicané pour cela. Donc je vous le dis deux fois, shalom, shalom. Allez, que Dieu vous bénisse. Bye bye.